Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les opposants à la réforme des retraites vont de nouveau descendre dans la rue ce jeudi. Pendant ce temps, le texte poursuit son parcours à l'Assemblée nationale, où les débats en commission sont d'ailleurs houleux, plus sur la forme que sur le fond, vous l'entendrez. Témoignage aussi à suivre d'une directrice littéraire. Elle raconte des attouchements, des agressions subies plus jeune par un ponte de l'édition. Elle signe une tribune ce matin. Le gouvernement chinois gère l'épidémie de coronavirus sur son territoire. C'est en tout cas ce qu'a martelé son ambassadeur à Paris hier. Nous y étions. Et puis Kirk Douglas est mort hier. L'acteur star d'Hollywood dans les années 50 et 60 avait 103 ans. Remballez vos leçons de démocratie. C'est par ces mots virulents que s'affrontent à l'Assemblée nationale députés insoumis et représentants de la majorité. Ils débattent depuis lundi en commission spéciale du projet de loi sur la réforme des retraites. Chacun se reproche mutuellement d'abîmer le travail parlementaire. 22 000 amendements ont en effet été déposés, dont 19 000 par les insoumis. Clémentine Autain est députée insoumise de Seine-Saint-Denis.
Le débat parlementaire n'est pas du tout à niveau quand il s'agit de repenser de fond en comble notre régime de retraite. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant d'imaginer qu'on puisse avancer avec des procédures accélérées, avec un débat escamoté, jusqu'à nous enlever des minutes de temps de parole. Enfin, je veux dire, c'est démentiel. On est passé de 2 minutes pour défendre chacun de nos amendements à 1 minute. Tout ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, les débats de la commission sont assez intéressants parce que la Macronie ne semble pas assumer son projet. Il y a une espèce de stratégie de l'édredon. Donc leur méthode est de faire du brouhaha quand on parle, hors micro, pour tenter de nous déstabiliser et ensuite de se taire pour accélérer sans doute le temps de débat et surtout pour éviter la confrontation.
Et voilà ce que répond Olivier Véran, député La France, député La République En Marche d'Isère. Il est co-rapporteur du projet de loi.
1 minute par amendement, quand vous voyez la nature de l'amendement, article 1 supprimer le premier mot, article 1 supprimer le deuxième mot, déposé en 17 exemplaires, on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus qu'une minute. Donc on est dans des arguments redondants, c'est pas ma conception du débat démocratique, mais enfin on y est, donc on fait avec. Au bout de 60 interventions identiques de la part de l'opposition, c'est ça l'obstruction, hein. Au bout de 60 interventions identiques, est-ce qu'on répète 60 fois la même chose ? Non. Donc voilà, une fois qu'on a expliqué, donné les arguments, qu'on a communiqué sur l'explication des arguments, qu'on a fait valoir un certain nombre de choses, s'il repose sans arrêt la même question, c'est un peu le film Un jour sans fin. Vous pensez que vous avez fini le travail, que vous avez expliqué, voire que vous avez parfois convaincu, ou que vous avez acté les désaccords, puis le lendemain matin, bam, le réveil sonne, la même chanson et la même journée qui se déroule.
Des propos recueillis à l'Assemblée nationale par Rosalie Lafarge, alors que dans les rues, une 9e journée de mobilisation interprofessionnelle s'annonce ce jeudi. Des rassemblements et des manifestations sont prévues un peu partout en France. Faut-il y voir un effet des grèves récentes dans les transports publics en Île-de-France à propos de la réforme des retraites ? En tout cas, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, veut accélérer la mise en concurrence des transports dans toute la région. Les premières lignes de Transilien pourrait être concerné dès 2023, celle des RER et des métros en 2030. Une annonce qui suscite depuis hier de vives critiques de la part des syndicats. Ils estiment que l'ouverture à la concurrence ne va rien changer et ce, tant que la SNCF et l'État n'investiront pas plus pour moderniser un réseau vieillissant. Écoutez à ce propos Fabien Villedieu, secrétaire fédéral de Sudrail, interrogé par Hakim Kasmi.
L'ouverture à la concurrence, je le dis, je le répète, dans le ferroviaire, cela ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas en Angleterre, ça ne marche pas en France, et ça marche à peu près en Allemagne, pour la simple et bonne raison que les Länder, c'est-à-dire l'équivalent des régions là-bas, mettent sur la table 8 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 fois plus que ce que mettent les régions en France, ce qui n'est pas le cas, la France, parce que la France met beaucoup moins d'argent pour financer ses TER et financer Transilien. Donc cela ne marchera pas. Et aujourd'hui, il n'y a aucune compagnie ferroviaire en France, en dehors de la SNCF, qui a les moyens justement, notamment d'investir dans l'infrastructure. On sait que l'infrastructure, c'est la clé du problème. Énormément de problèmes de régularité sont dus à des problèmes d'infrastructure. Donc il y a un lien naturel qui se fait entre le train et le réseau et le rail. Et c'est pour ça que nous, on explique qu'il y a un monopole naturel qu'il y a au niveau du rail, parce que, je le dis, je le répète, un train, ça ne se conduit pas, ce n'est pas le conducteur qui conduit le train, mais c'est l'aiguilleur. Et l'aiguilleur, c'est le réseau, c'est le rail. C'est pour ça que l'ouverture à la concurrence, généralement, ne fonctionne pas, ou alors fonctionne très mal, comme on voit en Angleterre.
Un conseil d'administration extraordinaire d'Engie se tiendra aujourd'hui. Il doit se prononcer sur l'avenir de la directrice générale du géant de l'énergie, Isabelle Kocher. Elle pourrait être écartée au regard de critiques économiques d'Ibercy, mais à cause aussi de dissidences en interne, alors qu'elle a su faire prendre au mastodonte du gaz le virage de la transition énergétique, en cédant notamment 15 milliards d'actifs. Le patron de la Fédération française des sports de glace a contre-attaqué hier. Didier Gayaguet s'estime sali par des minables, ce sont ses mots. Il exclut toujours de démissionner malgré la demande du ministère des Sports après une série de révélations d'agressions sexuelles de plusieurs anciennes patineuses à l'encontre de leurs entraîneurs. Une omerta qui se brise donc dans le monde du sport après celui du cinéma déjà il y a quelques mois. Et ce matin, ce sont des autrices et des éditrices qui prennent la parole. Dans une tribune chez nos confrères de France Info, elles dénoncent les trop nombreuses violences sexistes et sexuelles dans le milieu littéraire. Des remarques déplacées, des attouchements, une brutalité psychologique, agression physique même. Caroline Laurent, directrice littéraire aux éditions Stock, témoigne. Elle a choisi de parler à visage découvert. C'est elle qui a rédigé la tribune ce matin et elle raconte l'une de ses agressions sexuelles.
Cet auteur célèbre qui depuis a reçu l'un des grands prix littéraires d'automne, comme on dit dans notre jargon, tout simplement à la fin de la soirée m'a forcé à l'embrasser. Il a posé ses mains sur mes seins, il m'a tripoté, je ne le voulais pas, je l'ai repoussé, il a recommencé. Le lendemain, il m'a envoyé un message en disant qu'il faisait des rêves érotiques de moi et je me suis sentie vraiment salie et là encore bloquée par le fait qu'il s'agissait d'un auteur de renom qui fait tourner la maison d'édition et que j'étais pas en mesure de m'opposer à lui. Aujourd'hui, je pense que j'aurais réagi et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité écrire cette tribune qui embrasse la cause des femmes et qui montre que nous ne sommes plus aujourd'hui seulement des victimes et que nous devenons des battantes et qu'il va falloir s'habituer à ça. Mais sur le moment, j'étais jeune, j'étais désarmée et j'étais aussi sidérée parce qu'il s'agissait d'un grand nom de ce petit monde littéraire et que je n'arrivais pas à me détacher de cette figure.
Des propos de Caroline Laurent recueillis par Gaëlle Joly de France Info pour France Culture. Les mesures de confinement et les restrictions ont été étendues hier à travers la Chine et à l'étranger pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Elle a déjà fait 560 morts en Chine continentale. Pékin considère la situation préoccupante, mais accuse aussi de nombreux pays, et notamment les États-Unis, d'alimenter la panique. L'ambassadeur de Chine en France a tenu une conférence de presse hier après-midi. Il s'agissait, Olivier Poujade, de rassurer tout le monde.
Soyez les bienvenus.
Les autorités chinoises n'invitent que très rarement les journalistes à poser des questions. Si l'ambassadeur Lou Chaillet se prête à l'exercice, c'est que la situation est inquiétante, mais tout est sous contrôle.
Bien que l'épidémie continue de se propager et que la situation soit toujours complexe et grave, il est encourageant de constater que le nombre de guérisons ont dépassé ceux des décès.
Pas de dysfonctionnement ni de problème à l'évocation des peurs exprimées sur les réseaux sociaux par une partie de la population chinoise, des queues interminables devant les hôpitaux, de la persécution systématique contre les citoyens passés par la ville de Wuhan.
Tout le monde a des plaintes, n'est-ce pas ? C'est normal.
Certains gouvernements locaux n'ont habilité qu'une seule personne par famille à sortir tous les deux jours pour ravitailler le foyer.
En Chine, on peut le faire, hein, comme ça. Peut-être en France, on va crier la violation des droits de l'homme. Mais pour le moment, le plus grand droit de l'homme, c'est la vie, c'est la santé.
Des mesures drastiques soutenues par le peuple, l'ambassadeur l'affirme.
D'ailleurs, la population accorde une compréhension totale au gouvernement, même s'il y a des plaintes.
C'était une conférence de presse de l'ambassadeur de Chine en France, suivie pour nous par Olivier Poujade. 14 personnes ont été blessées cette nuit à Jérusalem. Une voiture a foncé sur la foule en plein centre-ville. La police israélienne indique ce matin avoir diligenté une enquête pour attaque terroriste. Donald Trump compte réagir formellement en fin de journée tout à l'heure après son acquittement. Le Sénat américain a en effet acquitté le président après un procès qui a jeté une lumière crue sur les fractures de l'Amérique. La Maison-Blanche s'est réjouie dès hier soir qu'il ait été pleinement innocenté après à part la Chambre à majorité républicaine, le Sénat républicain qui a donc acquitté Donald Trump. Pour les démocrates, en revanche, cet acquittement n'a aucune valeur, à défaut, selon eux, d'un procès équitable. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7 heures. Dans une demi-heure également, vous entendrez la voix de Kirk Douglas. L'acteur est décédé hier soir à l'âge de 103 ans. Cette figure d'Hollywood, on se souvient de lui, de certains classiques dans les années 50 et 60, 20 milieux sous les mers, les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, qu'il retrouve d'ailleurs pour Spartacus en 1960. Son œuvre détaillée à retrouver sur franceculture.fr. Le temps de ce jeudi en France métropolitaine, il sera sec et majoritairement ensoleillé sur tout le territoire. Comptez ce matin 2 à 3 degrés au nord de la Loire, 4 à 11 au sud.